Chers auditeurs et auditrices de Radio Capi, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Tribune de la Presse que j'ai l'immense plaisir de la présenter avec des confrères, hein, journalistes qui sont avec moi ici au studio et au téléphone depuis la ville de Béni au Nord Kivu. Au cours de ce magazine, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant cette semaine finissante. Et pour ce soir, deux thèmes sont au menu de notre débat, à savoir la grogne sociale en RDC avec le déclenchement de la grève des médecins dans plusieurs provinces du pays et la mesure d'annulation de la vente aux enchères des 27 blocs pétroliers publiés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par le ministère des Hydrocarbures le 14 octobre dernier. Tati Mapoukou est à la présentation de cette tribune de la presse. Kéline Kouté coordonne ces numéros sous la supervision de Martin Sebujangwe et d'Eps Vita s'occupe de la prise des sondes. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute de cette tribune de la presse.
Sous le haut patronage du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'action du gouvernement de la République, par l'étruchement du ministre d'État, ministre de la Justice, organise du 29 août au 13 novembre 2024 à travers le pays et à Kinshasa, les états généraux de la justice sous le thème « Pourquoi la justice est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Dans une dynamique prospective et participative, ces assises se dérouleront en trois phases. La première phase a eu lieu du 29 août au 2 septembre 2024 à Zongo, au Congo central, consacrée à un atelier de validation de la mise en œuvre de la politique de la réforme de la justice. La deuxième phase, du 19 septembre au 29 octobre 2024, consiste à des consultations populaires à travers la République. La troisième phase, du 6 au 13 novembre 2024, est celle des assises proprement dites des États généraux de la justice au centre financier de Kinshasa. Dans un élan de promouvoir un état de droit, ces assises connaîtront la participation des magistrats, avocats, scientifiques, greffiers, organisations professionnelles de droit de l'homme et de la justice, de la société civile et tant d'autres. États généraux de la justice, seule la justice élève une nation. Ceci est un message du ministère de la Justice.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Nous débattons dans cette tribune de la presse des sujets ayant dominé l'actualité au cours de cette semaine avec Géry Ngoua Lunyangu. Il est rédacteur en chef du média en ligne APA Média. Bonsoir, chers collègues, et bienvenue dans ce rendez-vous de la tribune de la presse.
Bonsoir, chers collègues, et merci de m'avoir reçu.
Monsieur Pepito Sakasaka, il est présentateur de l'émission télévisée Focus Hydrocarbures, fait également partie, hein, du panel de cette tribune de la presse. Bonsoir et bienvenue dans cette tribune de la presse de Radio Capi.
Bonsoir, cher Tati Mapoukou.
Troisième intervenant au cours de ce rendez-vous de la tribune de la presse, il s'agit de Jonas Kiriko. Il est journaliste et coordonnateur d'InfoNil en RDC, rédacteur en chef honoraire de Moto Télévision, un média du diocèse catholique de Butembo-Beni. Nous sommes là au Nord Kivu. Bonsoir Jonas et bienvenue dans ce rendez-vous de la tribune de la presse.
Bonsoir Tati, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi, mais également bonsoir aux confrères qui sont avec vous au studio.
Bienvenue dans Tribune de la Presse. Avant de donner la parole aux confrères ici présents au studio et au téléphone à Béni au Nord Kivu, nous allons ensemble suivre la déclaration du docteur John Osenga. Il est secrétaire général de la CINAMED, mais bien avant, il est de coutume dans cette émission que chacun de nous se prononce sur un sujet d'actualité qui a dominé l'actualité en dehors des deux thèmes principaux de notre rendez-vous. Vous. Jonas, dites-nous quel est le sujet ou d'actualité qui a retenu votre attention cette semaine.
Voilà, cette semaine, c'est une semaine qui coïncide avec le triste 10e anniversaire de massacre de civils à Beni. Mm-hmm. Alors, comme vous le savez, c'est depuis 2014 que des civils se font massacrer. Et cela est parti d'abord du territoire de Beni, de la ville de Beni. Il est allé jusque dans les territoires d'Irumu, Mambasa tout récemment, et actuellement, cela se passe en territoire de Lubero. Alors, il y a eu des manifestations à travers les grandes agglomérations du Grand Nord, notamment Butembo et Beni, mais également il y a eu des activités qui ont été perturbées deux ou trois jours, je crois. Mmh. Et ça a été donc parmi les actualités qui ont dominé la semaine. À cela s'ajoutent les perturbations des cours. Ça, il ne faut pas l'oublier.
La perturbation des cours dans les écoles primaires et l'école officielle,
en fait. Oui, les écoles publiques, les écoles du ressort public, les écoles primaires, oui, c'est ça.
Jérôme Goua, nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APA Média. Dites-nous, à votre niveau ici à Kinshasa, en dehors des deux thèmes principaux retenus pour cette tribune de la presse, quelle est l'actualité qui a captivé votre attention?
En tout cas, cette semaine, le fait saillant, c'était la dénonciation des agents du ministère de l'Environnement qui dénonçaient la gestion opaque des frais de revenus de la vente de crédit carbone. Et le ministre de l'Environnement, la Mineta F. Bazaïba, a rétorqué à travers une radio locale. C'était le fait saillant pour moi cette semaine.
Pepito Sakasaka, je me tourne vers vous. Hein. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes présentateur de l'émission télévisée Focus Hydrocarbures. Hein. Dites-nous, quelle est l'actualité qui a retenu votre attention cette semaine?
Je devrais aussi rebondir dans le même sens que les confrères sur la question de la réclamation des agents et cadres du ministère de l'Environnement. Et je précise aussi pour soulever un élément par rapport à la baisse de prix de carburant à la pompe, bien que l'actualité est quand même antérieure, mais les effets s'y font sentir. Jusque-là, la population se demande, mais les carburants, le prix a été réduit, mais sur le plan socio-économique, nous ne sentons rien. Et il y a des difficultés de transport qui continuent à déranger.
Et parfois, on voit des stations-services qui ne vendent pas.
On voit des stations parfois qui ne vendent pas. Et nous avons vu la vice-ministre des hydrocarbures descendre sur terrain pour dire aux gens qu'il n'y a pas PNRU, il n'y a pas ceci, cela. Et le gouvernement, au travers le ministère des hydrocarbures, a promis de pourparler avec des pétroliers pour essayer un peu de remettre un peu l'ordre et éviter ou vider tout ce qui peut surgir comme mécontentement et tout et tout.
Merci à vous trois, hein, à vous trois d'avoir fait les points de l'actualité qui a retenu chacun de l'attention de chacun de vous. Donc notre premier sujet concerne la grogne des médecins qui ont déclenché la grève depuis les 15 octobre dernier. Mais avant de vous donner la parole, hein, nous allons d'abord suivre la déclaration du docteur John Senga qui est secrétaire général qui a annoncé le début de la grève le 14 octobre dernier.
Pourquoi nous commençons un mouvement de grève aujourd'hui? Il vous en souviendra que l'année passée, au mois de mars, nous avons signé un avenant à l'accord que nous avions précédemment signé au mois d'août 2021 avec le gouvernement de la République. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, le gouvernement n'a pas réalisé ses propres engagements. Les médecins des services publics de l'État réclament, un, c'est qu'on leur paye au grade statutaire. Deuxièmement, c'est la majoration de notre prime de risque, de notre rémunération en fait. Vous savez que la grande partie de notre rémunération est faite par la prime des risques et le gouvernement s'était engagé à pouvoir l'améliorer. Troisième chose, c'est l'alignement des médecins, des jeunes à la prime des risques professionnels. Ces médecins qui ont été engagés par le même gouvernement, qui travaillent mais qui ne sont pas rémunérés. Quatrièmement, c'est la mécanisation des médecins qui travaillent sans avoir été mécanisés, c'est-à-dire reconnus par la fonction publique. Mais aussi, les conditions sociales des médecins se sont dégradées. Vous voyez les médecins manquer de fonds pour se faire soigner, des médecins qui sont des locataires, qui sont en train d'être chassés, et ça ne dispose pas le gouvernement.
Vous venez là de suivre hein, la déclaration à chaud du secrétaire général du SINAMED hein, sur les déclenchements de la grève des médecins. Jonas Sekiriko, je rappelle que vous êtes journaliste et coordonnateur d'InfoNil en RDC, rédacteur en chef honoraire de Moto Télévision, une télévision du diocèse catholique de Butembo. Et comment analysez-vous cette nouvelle de la grève des médecins?
Voilà, je crois que quand on s'est salisé dans ses droits, on a vraiment, si je peux me répéter, ces droits-là de revendiquer. Vous voyez, on leur a promis, par exemple, une majoration, on a promis une mécanisation, on a promis améliorer. Hein. Vous voyez, donc, c'est autant de griefs que les médecins sont en train de soulever. Moi, je me dis qu'il n'y a pas que dans les secteurs où le gouvernement a des engagements. La même
Jonas, s'il vous plaît, déplacez-vous un tout petit peu. Oui, je disais, déplacez-vous un tout petit peu parce que la communication a l'air de se détériorer.
Ouais.
Voilà, vous êtes en train de dire que la situation est plus ou moins généralisée à travers les pays.
Effectivement, je tente de dire que leur situation est similaire à celle des enseignants d'autres secteurs également, vous voyez, même l'OVD, même, bon, en fait, dans tous les secteurs en RDC, il y a un problème. Et donc, moi, je crois que les gens qui vont à grève, ils sont dans leurs droits. Mais alors, il faut regarder de l'autre côté de la marche. Les populations, les communautés qui reçoivent les services de ces enseignants-là, comment est-ce qu'ils vont se faire soigner? Et pourtant, alors, on engage ces médecins, c'est pour le bien de la communauté. Et les gouvernements sont censés travailler pour le bien de la communauté. Mais ce qui n'est pas fait. Alors, améliorer les conditions de médecins, ce n'est que dans la continuité d'améliorer par extension donc les conditions de vie de communautés. C'est un peu ça. Moi, je me dis que les médecins sont dans leur droit d'aller à grève et de réclamer que des engagements qui ont été pris par les gouvernements, notre gouvernement de surcroît, puissent être respectés.
Intervenez, chers collègues, depuis Béni, au Nord Kivu. Dans quelles conditions travaillent les médecins dans cette partie du pays?
Ici, c'est très compliqué. Vous savez que heureusement que pour cette année, ce n'est pas encore opté. Il y a des médecins qui se font lever dans les hôpitaux, les endroits qui connaissent des massacres. Non plus de médecins, personne ne peut rester là-bas. De médecins qui sont des locataires, de médecins qui... Alors, vous savez que je vais vous raconter une anecdote. Quand nous on grandissait, on savait que le médecin roulait carrosse. Mais maintenant, là, vous le voyez, c'est sur des taxis, des motos. Alors, de médecin, c'est le roi, quelqu'un qui a fait beaucoup d'années en train d'étudier pour le bien de la communauté. Donc, donc c'est une situation un peu déplorable. Les médecins, en tout cas, comme je l'ai dit encore dans mon propos liminaire, ils ont ce droit de réclamer que leurs conditions de vie soient améliorées et par extension, que les conditions de tous les citoyens congolais soient améliorées parce que c'est ce que les gouvernements essaient de faire. Voilà.
Chers collègues, nous vous gardons en ligne et nous rappelons que Jonas Kiriko, journaliste et coordinateur d'Info Nil en RDC, rédacteur en chef honoraire de Moto Télévision, qui est un média du diocèse catholique de Beni Butembo. Nous allons revenir à vous. Jerry Ngoua, de votre côté, nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APA Média. Dites-nous, comment analysez-vous cette situation de la grève des médecins déclenchée depuis le 15 octobre dernier?
Cher Tati, ce n'est que le début. Le mal, il est profond. Hier, c'était les enseignants de secteur
des écoles officielles.
Ouais. Et là, ce sont les médecins et les infirmières qui vont bientôt les rejoindre. Nous avions la grève de camionneurs et tout cela qui a vraiment joué un rôle sur les prix de certaines denrées.
Oui, la grève a été levée il y a 10 jours camionneurs.
Et ça va aller, ça va continuer ainsi. Quand le médecin demande, c'est que tout ce que le médecin demande, c'est plutôt l'amélioration de conditions de travail.
Oui, les médecins réclament les paiements au grade statutaire, la majoration de la prime des risques, l'alignement des jeunes médecins, les non mécanisés, à la prime professionnelle, l'amélioration des conditions sociales et professionnelles et un service minimum qui est assuré notamment par des urgences malgré les déclenchements de la grève au fait.
En un mot, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie et de
exactement.
Travail. C'est la même chose que les enseignants réclament. Et pourquoi nous arrivons toujours à une situation de grève? C'est-à-dire, nous avons un système en place qui ne répond que quand on fait pression. Et il y a une fine couche de Congolais qui ont presque tout ce qu'ils demandent ou tout ce qu'ils veulent. Et nous ne sommes pas ici pour débattre politiquement. Mais comment c'est facile de ce côté-là alors que c'est difficile
de l'autre côté?
Et
c'est chaque année que ces genres de revendications surviennent.
Exactement. Et surtout qu'on a parlé les budgets, il y a
majoration de budget.
Majoration des budgets et de tout ça, les recettes. Et d'ailleurs, nous avons vu le ministère de Finances à ses débuts dire comment ils ont pu mobiliser plus que ça ne se faisait.
tout cela, ben, quelles sont les retombées de tous ces discours-là? Donc, la grève en place de médecins comme des infirmiers, et ce n'est qu'un début. Ça va continuer et ça ne finira jamais. Je vous donne un exemple. Je me retrouve dans un village, dans le Maïndoumbe, qui est à plus de 60 kilomètres du chef-lieu, Inongo.
Inongo, oui.
Alors, une dame prête à accoucher, un matin, ben, on a alerté presque tout le monde dans le village, je sors. On me dit, non, vous devez l'amener dans le village prochain qui se trouve à 4 kilomètres. Pourquoi? Parce que l'infirmière du village, ne trouvant pas les conditions meilleures dans les lieux, s'est rendu à Bandundouville. Vous comprenez?
Oui. Mais ce n'est même pas une accoucheur, c'est une infirmière.
Exactement. Alors, vous vous rendez compte de ces conditions-là. Quand les médecins parlent, on va bien sûr procrastiner, dire des tas de trucs, mais c'est une réalité qui est en train de se vivre. Et chaque année, chaque trois ans, chaque trimestre, les mêmes revendications. Ben, il faudra qu'on arrive à un point où on doit prendre cela en place. Pourquoi les représentants que nous élisons dans différents institutions deviennent les plus aisés de la situation alors que la population qui les envoie là-bas croupit dans la misère.
Votre média est basé ici à Kinshasa, mais également des correspondants un peu partout au pays, à Lubumbashi. Est-ce que c'est dans les mêmes conditions que les médecins travaillent, même dans cette région, au Katanga, de Mambré notamment?
Et je dois dire ici que Kinshasa, c'est le luxe, en fait. Malgré les conditions précaires que les médecins sont en train de déplorer, il faudra aller. Vous le savez que les journalistes a besoin d'être près de la population et produire les éléments de proximité. Je vous dis la situation. Tantôt là, je vous parlais de Maïdoumbé et je peux vous parler de Nord-Ubangi. Vous avez un endroit dans les territoires de Businga, par exemple. Vous quittez Businga en route vers Lissala. C'est une très grande forêt. Et tous ces villages-là n'ont même pas un centre de santé. Alors, disons-nous que ça ne va pas. Et donc, c'est-à-dire partout en RDC. Et d'ailleurs, la situation est pire quand on va dans le Congo.
Plus on s'éloigne des grandes villes.
Exactement.
Merci beaucoup, Jerry. Je vais revenir à vous. Pepito Sakasaka, nous rappelons que vous êtes présentateur de l'émission télévisée Focus Hydrocarbures. Dites-nous, quelle analyse faites-vous de cette situation de la grève des médecins?
On a l'impression de revenir sur la même chose. C'est agaçant. Après chaque cycle, on a l'impression comme si ce sont des choses programmées où on est censé, après 5 ans, après 4 ans, revenir sur les mêmes choses. Mais j'aimerais bien donner un petit conseil aux syndicalistes. Vous savez, à un moment, lorsqu'on défend le droit de ceux qui sont lésés, il faut beaucoup de moralité, d'éthique. Mmh. On a l'impression comme si ceux qui défendent le droit, ils se retrouvent en même temps, ils prennent part du décideur. Et ils donnent l'impression de défendre
les patronats, le gouvernement, voilà. Que de défendre les intérêts des employés.
C'est très compliqué. Ils prennent des conclusions, mais au finish, lorsqu'il y a une pression au niveau de médecins ou bien au niveau des enseignants, nous revenons sur la même chose. Donc, je les invite à plus de conscience et de pitié un tout petit peu. Quand vous êtes syndicaliste, alors soyez un peu ferme, parce que plus vous serez ferme, plus l'autorité peut vous respecter.
Vous sous-entendez que les syndicalistes sont parfois manipulés par les pouvoirs
certains
publics.
Certains sont manipulés, c'est connu, ils sont manipulés. Et du coup, pour les remercier, d'autres même s'y retrouvent dans des branches politiques. Il y a d'autres aussi qui jouent les jeux de politiciens qui font arrêter certains agents qui sont coriaces ou qui dénoncent facilement. Il y a boire et à manger dans tout ça. Donc j'attire un peu l'attention, la curiosité des syndicalistes de défendre la masse et de défendre ceux qui sont vraiment dans des situations très, très désastreuses. Un médecin, c'est si la justice est malade et la santé à quel état? Je m'arrête là.
Oui, mais en même temps aussi, vous êtes journaliste, observateur du quotidien. Dites-nous, quels sont les constats que vous faites quand vous allez, par exemple, dans des hôpitaux publics?
C'est très grave, même ici à Kinshasa. Lorsqu'on est au niveau du centre-ville, on peut encore faire semblant, où on peut voir la beauté du bâtiment. Mais lorsqu'on s'éloigne vers Kimbantseke, vers Bumbu, c'est là où on peut se rendre compte que dès que le malade arrive, et on l'expose encore parce qu'il n'y a pas un médecin. Ou bien les infirmiers qui sont là ont du mal à recevoir le malade. Donc le mal est tellement profond, on a beau parler de la gratuité de l'enseignement, gratuité de l'accouchement et autres, mais on doit aussi tenir compte de celui-là qui doit passer le temps à diagnostiquer, à soigner le malade. Parce que si cette question-là n'est pas bien réglée, ce sont nos vies qui sont en danger. Est-ce qu'on doit aller encore se faire soigner dans un hôpital où le médecin est en train de gréver? Il a quelle morale? Et comment est-ce qu'il va encore reprendre le boulot si les déshydratants ne sont pas répandus? C'est dans cette atmosphère-là qu'on a du mal à vivre. Et puis on s'est dit, comment se présente l'avenir? Comme cher collègue l'a bien dit, que nous allons aller de grève en grève. Et quelle est la situation qui se présente devant nous? C'est vraiment un flou artistique. On a du mal, on ne sait pas où allons-nous.
Mais en même temps aussi, ces revendications d'amélioration des conditions de vie, salariale, mécanisation, c'est le même discours qui se répète chaque année, depuis des décennies, et il n'y a presque pas de solution.
C'est pourquoi je l'ai dit, on a l'impression de revenir sur la même chose. Et c'est agaçant, c'est ennuyant. Le gouvernement est censé répondre à des préoccupations. C'est le social dont on parle, le peuple d'abord. C'est vraiment ça. Ça devrait captiver l'attention du gouvernement pour répondre aux doléances. Mais en même temps aussi, les syndicalistes doivent être fermes et sérieux lorsqu'ils doivent signer des revendications. Nous avons vu avec le dossier des enseignants, la première ministre qui dit qu'il y a eu un accord, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un accord, mais ils continuent encore à gréver? Est-ce qu'ils signent les accords avec les yeux bandés? Ou avec des personnes qui ne sont pas concernées? Ou qu'est-ce qui se passe autour de ça? Avec des médecins aussi, parfois Sinamed c'était, et parfois Sinamed surgit. Nous ne savons pas si c'est un mouvement de masse, ou lorsque les enseignants grèvent, nous aussi nous devons gréver, ou bien on sursaute et voilà, nos doléances n'ont pas été répondues, nous aussi nous allons gréver, ou réellement ce sont des doléances concrète, où il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus. C'est vraiment un peu flou derrière tout ça.
Merci à vous tous d'avoir analysé cette actualité de la grogne sociale avec la grève des médecins déclenchée depuis le 15 octobre dernier sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième et le dernier thème de ce soir se rapporte à la décision de l'annulation par le ministère des hydrocarbures de la vente aux enchères des 27 sites destinés à l'exploration pétrolière, citant des soumissions tardives et un manque de concurrence. Cette initiative représente une avancée significative pour la sauvegarde de l'environnement et la justice climatique à travers les continents africains, soutient Greenpeace au lendemain de la publication de cette décision du ministère des hydrocarbures. Comment commentez-vous cette décision du ministère des hydrocarbures? Nous en parlons avec vous, mais nous allons débuter avec notre collègue qui est à Beni, au Nord Kivu. Il s'agit de Jonas Kiriko. Nous rappelons qu'il est journaliste et coordonnateur d'Infonil en RDC, rédacteur en chef honoraire des Moto Télévision, un média du diocèse catholique de Butembo. Nous sommes là au Nord Kivu. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, suivons ces rappels des faits produits par notre conseil Jocelyne Moussaou.
Ce processus d'appel d'offres relatif au bloc pétrolier avait été lancé le 28 juillet 2022. Ces blocs se répartissent dans les trois principaux bassins sédimentaires de la RDC, à savoir le bassin côtier, le bassin de la cuvette centrale et les bassins de la branche ouest du rift est africain. Selon le ministère des hydrocarbures, la RDC contient des ressources pétrolière estimée autour de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres cubes de gaz méthane dans le lac Kivu, capable de placer le pays au premier plan des grands producteurs de pétrole et du gaz dans un environnement d'exploitation unique. Une commission ad hoc a été instituée par l'arrêté ministériel du 17 juillet 2023 portant nomination des membres de la dite commission sur l'attribution des droits d'hydrocarbures en République démocratique du Congo et a procédé à l'évaluation des soumissions des différents candidats. Avec cette décision du ministre des Hydrocarbures, le processus est donc interrompu.
Vous venez là de suivre les rappels des faits sur ces processus de la vente aux enchères de 27 blocs pétroliers qui a été publié en 2022 et annulé sur décision du ministère des Hydrocarbures le 14 octobre dernier. Jonas, comment analysez-vous cette actualité, cette nouvelle qui a dominé l'actualité cette semaine?
Voilà, je pense que c'est mal pour eux bien. Vous voyez, les organisations de la société civile notamment qui sont engagées dans la transparence, les Congos ne pas à vendre, il y a Congo nouveau, nous aussi de pointer du doigt le processus par lequel l'octroi de ces blocs avait été donc initié. Mm. Vous savez, dans les conseils de ministres, on parlait de 16 blocs. Mm. Hein, des 16 blocs qui devaient être
attribués.
Oui. Hein. Attribués, oui. Alors, mais à la fin, on apprend à juillet 2022 qu'il s'agit plutôt de 27 blocs. Alors, mm. Les 11 autres, oui, les 11 autres là, qui n'avaient pas été. Qui n'avait pas fait l'objet des échanges donc au sein du Conseil des ministres était où qui donc les 11 que nous avons retenus à qui ça pouvait profiter. Il y avait aussi 3 blocs gaziers mm. qui devaient être aussi octroyés mais qui n'avaient pas été discutés au sein du Conseil des ministres. Ce qui fait que ouais les organisations de la société civile se disaient mais il y a beaucoup de magouilles autour de cette attribution. Voilà pourquoi il fallait qu'on revoie. Il fallait donc qu'on revoie pour savoir à qui profitent les 11 autres là. Mais aussi, récemment, dans les communiqués du ministre Molendo Sakombi, on nous dit que les 3 blocs gaziers ne sont pas concernés par cette annulation. Mais les 3 blocs, il y a une organisation qui a récemment a pointé du doigt le fait que la compagnie l'une des compagnies qui ont gagné le marché pour ces 3 blocs gaziers n'avait pas d'expertise. Non. Vous pouvez aller à Bukavu où on suppose que cette organisation a son bureau, mais le bureau n'existe pas. Vous pouvez aller au Canada où on suppose que cette organisation a une filiale. Vous ne saurez pas trouver exactement où se trouve cette compagnie.
Non, c'est une compagnie malette, au fait. C'est une compagnie malette, donc il n'y a pas de sérieux dans l'attribution, dans les appels d'offres, la sélection des entreprises qui vont travailler dans le secteur.
Exactement. Et on ne sait pas quantifier est-ce que cette organisation a vraiment la compétence technique et financière pour cela. Ce qui fait passer que la plupart, c'est des compagnies qui ont été créées dans la fièvre là de l'octroi de ces blocs-là. Il y a aussi d'autres blocs qui avaient été donc octroyés, notamment dans le parc national de Virunga. Mais nous savons que le parc national de Virunga, c'est vraiment et bien de l'UNESCO. Donc, mmh. Et bien pour
un patrimoine universel.
Mais alors, voilà. On a attribué encore une fois, on devait encore attribuer, je crois que c'est le bloc 5 ou 4, je ne sais plus avec précision, mais qui devait être encore une fois de plus attribué dans le parc national de Virunga. Et vous savez que avant, le même parc de Virunga, dans ces blocs-là, il y avait Soko qui avait gagné le marché et qui commençait déjà des études. Moi, je me dis que même après, il y aura donc des litiges encore une fois et le gouvernement congolais pourrait être appelé à payer beaucoup encore des indemnités à ces entreprises-là. Je ne veux pas citer le bloc de Dan Gettler qui faisait également l'objet encore une fois de ces appels d'offres, mmh. Mais on savait que Dan Gettler les avait gagnés.
Oui.
Les gouvernements congolais voulaient encore les réattribuer. Vous voyez combien c'est un peu de la légèreté dans ce que notre gouvernement essayait de faire là-dessus.
Oui, Jonas, je souligne également qu'il y a les ONG de la société civile, les acteurs de la société civile qui demandent à ce que l'on puisse également retirer hein, les appels d'offres concernant les blocs gaziers.
Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence. Il faut qu'on nous dise l'entreprise qui a gagné le marché est capable de le faire ici, est capable, c'est que la loi nous dit, la loi de l'attribution de marché nous dit ceci, alors qu'on nous demande cela, ou qu'on demande que ces entreprises-là sont capables de réaliser. Personne ne peut donc s'opposer à ce que l'on puisse donner du travail à des Congolais. Mmh. Personne ne peut s'opposer à ce que les caisses de l'État puissent être rafloues, parce que nous tous, nous voulons que le vécu des Congolais soit amélioré. Mais que cela se passe dans le respect des normes. Voilà.
Merci beaucoup Jonas. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Beni. Vous êtes coordonnateur d'InfoNil en RDC, rédacteur en chef honoraire hein, de Moto Télévision, un média du diocèse catholique de Butembo. On vous garde à ligne. Nous retournons ici au studio pour donner la parole à Jeringua. Vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APA Média. Dites-nous comment commentez-vous cette actualité hein, liée à l'avis d'annulation d'attribution des blocs pétrolier publié le 14 octobre dernier par le ministère des hydrocarbures.
En tout cas, pour moi, c'est vraiment la meilleure des décisions qui a été prise.
Pourquoi?
Parce que la mise, l'appel d'offres sur les 27, les 27 blocs, et c'était quelque chose qui a été fait. Ça montrait vraiment, c'était pas professionnel, c'était l'impréparation. Et même à dire qu'il y a des études préliminaires qui ont été entreprises par le gouvernement, c'était difficile. Donc c'était une sorte de crier l'argent à des individus. Voilà, aujourd'hui la vérité est repartie. Je vais souligner un point sur l'environnement. Lors de la soi-disant délimitation et de ces blocs-là, on n'a pas tenu compte de la préservation des écosystèmes et tout ce qui va avec.
L'impact environnemental, ouais, des communautés locales qui vivent autour.
Exactement. Et je vais prendre un exemple qui me touche à cœur. Le gouvernement ougandais a alloué des blocs comme cela du côté de Pakwach. C'est presque la frontière avec la RDC, à une entreprise française dont j'étais les noms, pour exploiter du pétrole. Et cette entreprise-là a vraiment est arrivée à bout et est même entrée du côté de Boga. Hein, c'est pas un secret, en Ituri. Ils ont installé des systèmes qu'il fallait pour ensuite ramener les études vers la RDC. Mais à ce même moment-là, la manière qu'ils étaient en train de faire pour les études, pour mener leurs études...
Du côté de l'Ouganda ?
Du côté congolais.
Du côté congolais ?
Du côté congolais, affectait déjà la population locale. Et personne n'a osé...
En termes de pollution de l'eau, des cours d'eau...
Et les évictions et tout cela. Pourquoi ? Parce que c'est l'impréparation, le manque de professionnalisme que nous faisons. Dans cette histoire, vous n'avez pas vu l'engouement de grandes boîtes pétrolières. Posez-vous la question, pourquoi ? Pourquoi ces grandes boîtes, toutes les entreprises, le manque de compétition dont on est en train de parler, pourquoi? Parce que ce sont des amateurs qui se sont pris langue avec des collaborateurs ici et là et tout ça. Alors ça, c'est quoi? Mais l'histoire de 3 blocs gaziers sur le lac Kivu, ça, c'est quelque chose d'urgent, mais que j'exhorte vraiment les autorités de ce pays de prendre au sérieux.
De commencer déjà à extraire, parce que ça risque d'avoir également des incidences si on n'extrait pas ces gaz dans les sous-sols et dans les lacs.
Exactement.
Dans les lacs,
il y a pas longtemps, il y a eu explosion, c'était ma vie vie ou quelque chose comme cela. Non, ma vie c'est à Beni plutôt. Ah, désolé. Ouais, pour la confusion, mais on a vu quand même le retombé de ce qui nous attend dans les futurs. Nous connaissons l'explosion d'un lac au Cameroun et tout cela. Ça sont des histoires qui doivent être.
Oui, ben maintenant, chers collègues, tout dépend de la manière dont ces blocs seront attribués. Et s'il y a le clientélisme, ça compliqué. On n'aura pas des retombées intéressantes.
Exactement. C'est pourquoi j'exhorte la classe politique congolaise à prendre cela au sérieux, parce que c'est quelque chose dont on ne peut pas badiner avec.
Merci beaucoup. Je vais revenir à vous, Jirunguwa. Nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APA Média. Pepito Sakasaka, vous êtes présentateur de l'émission télévisée Focus Hydrocarbures. Hein. D'ailleurs, c'est votre créneau de spécialisation. Dites-nous, comment avez-vous analysé cet avis d'annulation des appels d'offres publiés par les ministères des Hydrocarbures le lundi dernier?
Merci à vous, cher Tatim, beaucoup d'avoir mis sur place ces thèmes, parce que c'est d'un intérêt très capital, excusez-moi, et c'était important aussi pour nous de recadrer certaines désinformations. Le premier recadrage...
L'information a été mal relayée d'après vous?
Le premier élément, on ne parle pas de la vente de blocs pétroliers. La loi parle de l'attribution de droits des hydrocarbures. C'est une nuance de taille. On ne vend pas les ressources naturelles, on peut attribuer les droits. La personne qui viendra
d'exploitation.
Voilà. Mais les ressources restent à nous. C'est une expression utilisée par certains médias impérialistes. Alors, un autre cadrage très important. On a parlé tantôt, c'était à 16. Et aujourd'hui, nous en avons
27.
27. C'était le 8 avril 2022 qu'on a adopté lors d'une 48e session du Conseil des ministres les dossiers d'appel d'offres pour attribution de droits sur le 16 blocs. Mais au 62e session, toujours du Conseil des ministres, cela a quitté de 16
à 27.
À 27, y compris les 3 blocs gaziers. Mais la RDC a du potentiel, au-delà même de ces 26 blocs.
Vous êtes documenté, qu'est-ce qui a justifié à ce que le gouvernement puisse revoir à la hausse le nombre de blocs à attribuer?
Exact. Le secret est au niveau du gouvernement. Je ne suis pas membre du gouvernement, c'est dans l'ère politique aussi de faire la promotion pour dire que nous avons du potentiel.
D'accord.
C'est l'ère stratégie d'aller au-delà. Mmh. Alors, pour aller encore en détail, pour expliquer un peu la réalité de ce dossier, l'article 60 du règlement des hydrocarbures donne la possibilité que les appels d'offres soient organisés au niveau ouvert ou bien au niveau restreint. Le gouvernement a la possibilité de faire un appel d'offres du point de vue...
À huis clos.
À huis clos aussi, c'est une possibilité légale. Et là, c'était un appel d'offres ouvert. Nous avons vu aux médias ainsi de suite. Mais dans cette logique de choses, les gens ont oublié comment est-ce que la chose devrait aller. On sait plus... donner aux alertes de mouvements de la société civile, ce qui n'est pas très mal, mais on devrait aussi comprendre comment les appels d'offres dans le secteur pétrolier devraient se faire. C'est pour une première fois dans notre pays que nous ayons des appels d'offres ouverts avec autant de blocs pétroliers. C'était historique. Et moi, je me dis qu'on devrait
tolérer. Parce que la première expérience, c'est à Moanda, la toute première expérience.
Nous allons revenir sur la question de Moanda.
Parfait.
Parlons un peu de cette avancée, parce que la RDC est en train de faire des grands pas dans le secteur des hydrocarbures. Et comprenons, lorsque nous faisons de grands pas dans un secteur aussi stratégique, certainement, il y a des failles que nous sommes obligés, nous, à notre niveau, de donner des orientations pour que le gouvernement puisse améliorer les erreurs. Cette opération a été, le projet a été lancé le 28 juillet 2022. Le projet a été lancé et du coup, nous avons constaté qu'il n'y a pas assez d'engouement. Et à l'issue de ces projets, 3 contrats ont été signés. Mais je regrette encore les gens qui reviennent pour dire, mais pourquoi les 3 blocs n'ont pas suspendu? On a signé les contrats parce que l'appel d'offres, c'est quoi? Nous appelons les gens, nous les soumettons à une concurrence et le finish, c'est ils vont signer les contrats, ils vont se mettre au travail. Pour le bloc gazier, c'est un acquis. Les entreprises ont signé le contrat. Je vais revenir sur ces entreprises-là. Et il nous restait le 27 blocs. Il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu certains blocs qui chevauchaient de parcs nationaux,
des
aires protégées. Et il y a eu beaucoup de réalités, insuffisance des données géologiques, géosismiques, et en termes de concurrence, en termes de critères, en termes de transparence, il y a eu beaucoup de choses. Et le ministre Messa Kombi, l'actuel ministre, a pris une décision, moi je qualifie de courageuse, de sursoir la procédure. Voilà là où nous sommes. Le ministre n'a pas annulé, parce que c'est un projet du gouvernement congolais. Le ministre a fait un avis, une pensée.
C'est un programme en fait intersectoriel, c'est multisectoriel.
Merci monsieur Tati Mapoukou. C'est un programme interministériel. Le ministre a juste mis une pause et dans la note, il a précisé que la chose sera relancée.
Oui, et dans la note, oui, mais les acteurs de la société civile persistent, demandent à ceux qui l'ont pu également retirer ou suspendre d'abord aussi l'attribution des blocs gaziers.
Je leur demande de s'apaiser, de mieux se documenter, parce que nous sommes dans un domaine où il y a une loi qui nous légifère. Les appels d'offres dans le secteur pétrolier ne subissent pas la même logique que dans d'autres domaines, passation de marché public, ainsi de suite. Ici, nous sommes dans un cadre légal bien défini. Ils doivent se documenter. Les CPP ont été signés. Parce que lorsque nous lançons les appels d'offres, c'est soit pour aboutir à des CPP, soit à des contrats de services. Avec le bloc gazier, ce sont des CPP qui ont été... Et j'ai pris part lors de la signature. Là, c'est encore une autre dimension juridique de la chose. Mais avec le bloc gazier, on a encore l'opportunité d'améliorer les choses. S'il y avait insuffisance des données, nous demandons au ministre de travailler avec la main d'œuvre locale, d'améliorer les informations. Nous avons des réserves prouvées, mais on a besoin des informations certifiées. On a la possibilité d'améliorer les informations. On a la possibilité de mieux organiser. Il y a une commission ad hoc qui a été montée. Et on a la possibilité de bien suivre la chose, l'évolution de la chose. Mais nous demandons encore aux autorités d'améliorer notre cadre légal. Nous faisons face à deux pays qui nous entourent, de pays frontaliers, qui avancent très bien dans ce secteur des hydrocarbures. À comparer notre législation et leur législation, nous sommes un peu défavorables.
En retard,
très en retard d'ailleurs.
En même temps aussi, chers collègues, la diminution sensible, la consommation de l'énergie fossile uralie interviendra d'ici à 2030. Ben, si il faut commencer par la réglementation, les études préliminaires, ça risque de prendre 5-10 ans. Donc, l'énergie fossile que nous avons va rester dans les sous-sols.
Je reviens pour vous peut-être paraphraser la position de l'APO, Organisation de pays producteurs du pétrole africain, qui ne voit pas la transition énergétique à la manière européenne. L'APO revient pour dire aux Africains, aux pays du monde, que l'Afrique devrait transiter à sa manière, en tenant compte de ses réalités, de sa pauvreté, de son sous-développement. Si pour l'Europe, c'est en 2030, ils doivent encore supporter que l'Afrique prenne le temps de diversifier son économie. Ça, nous allons, comme le président de la République l'a dit lors du lancement de sa appel d'offres, nous avons de la richesse, et comment on doit laisser les gens mourir comme ça, avec de la ressource, avec de ressources, avec de la richesse pétrolière. Pendant que nous savons, toutes ces grandes puissances-là sont devenues puissantes aujourd'hui parce qu'ils ont exploité suffisamment le pétrole.
Oui, mais en même
alors,
temps,
nous,
aussi. Oui.
Nous pouvons exploiter rationnellement. Et nous avons cette opportunité, certes, en tenant compte des aspects, des éléments liés à la transition énergétique, liés, comme la loi, d'ailleurs l'article 155 nous l'est dit, sur des questions liées aux aires protégées. Nous pouvons également aujourd'hui utiliser une technologie qui préserve l'environnement et qui nous permettra d'exploiter. Pourquoi on n'interdit pas aux États-Unis d'exploiter le pétrole de schiste? Pourquoi, si c'est la RDC qui lance une phase administrative, on n'a pas encore touché le sous-sol?
Non.
Nous sommes dans une phase des papiers, mais les gens s'agitent. Pourquoi on doit s'agiter? Parce que c'est la RDC qui veut valoriser ses ressources pétrolières.
Oui, mais si ces projets diversement interprétés par la société civile et autres, c'est parce que la première expérience remonte à Moanda. Qu'est-ce que l'exploration pétrolière à Moanda a apporté comme développement?
Parlons de Moanda.
C'est ça la grande discussion.
Parlons un tout petit peu de Moanda. Moanda, c'est un cas de figure. Ici en RDC, c'est le seul coin où est exploité le pétrole depuis plus de 30 ans, 40 ans déjà. Et Moanda n'a pas la taille d'une ville pétrolifère. Ça nous pousse aujourd'hui à organiser la conférence Moanda après pétrole. Mais nous nous disons, c'est un cas malheureux et l'échec de Moanda est lié à la législation. Les conventions anciennes qui sont des héritages coloniaux. Et dans ces conventions que moi j'ai l'opportunité de lire, je pourrais aussi vous le remettre, vous allez vous rendre compte que les aspects liés à l'environnement n'y étaient pas. Les aspects liés à la communauté locale n'y étaient pas. C'était un contrat où les colons ont voulu juste amadouer les autorités qui viendront. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec la loi de 2015,
donc les cas de Moanda peuvent nous servir et de tirer des leçons pour améliorer.
Parce que j'informe l'opinion que sur la totalité de réserves que nous avons jusque-là exploité que 3%. Et c'est pourquoi le pétrole contribue très peu dans la composition du budget de l'État.
À l'économie nationale. Donc.
Pendant que nous avons deux voisins, nous avons 9 voisins, 5 ont de raffineries pétrolières. Ils ont des productions pétrolières qui dépassent de loin. Nous apprécions.
Et les pays n'ont même pas une entreprise publique pétrolière.
Bon, nous avons notre fameuse Sonaïdro, que nous militons pour qu'elle soit redynamisée, nous militons pour que Sonaïdro puisse avoir vraiment sa notoriété, et nous militons pour que nous puissions exploiter rationnellement nos ressources, et nous demandons aux militants des mouvements citoyens, associations environnementales, d'amener sur la table des idées constructive pour faire avancer la machine.
Jonas Kirico, nous rappelons que vous êtes coordonnateur d'InfoNil en RDC et rédacteur en chef honoraire des Moto Télévision. Dites-nous en conclusion, en quelques mots, parce qu'on est presque à la fin de ces rendez-vous de la tribune de la presse, par rapport à ces deux nouvelles qui ont dominé l'actualité, un dernier commentaire.
Voilà, je voudrais revenir un peu sur ce qu'il vient de dire dernièrement. Alors, quand on vous dit de faire les choses dans l'art, ce n'est pas que cela, c'est une question de médias des Occidentaux, chers confrères. On vous dit qu'il faut passer le marché dans la règle de l'art, mais il ne s'agit pas là-bas
de la manipulation
des médias des Occidentaux.
Non, non.
Oui, voilà, personne ne s'oppose à ce que la RDC puisse exploiter ses ressources. Mais alors, faites-le dans le respect des normes. Alors, il parle aussi de la peau qui caractérise l'Afrique par rapport aux pays occidentaux. Mais c'est en fait. Mais le changement climatique n'est pas européen. Il est partout. Hein? Vous voyez, donc, il s'agit donc de parler des choses qui sont pratiques, mais pas donc, je ne sais pas si je peux qualifier ça comment. Donc, c'est un peu ça ce que je voudrais ajouter à ce que les confrères venaient de dire. Donc, le gouvernement congolais est dans son plein droit d'appeler, donc de lancer des appels d'offres. Mais alors, tout le monde, tout Congolais veut que cela se passe.
Selon les règles de l'art.
Là, nous sommes d'accord.
Voilà.
Merci beaucoup Jonas Kiriko. Nous rappelons que vous êtes journaliste et coordonnateur d'InfoNil en RDC et rédacteur en chef honoraire des Moto Télévision, un média du diocèse catholique de Butembo-Beni. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous de la tribune de la presse. Excellent début de week-end. Hein.
Merci beaucoup Radio Capi.
Voilà,
merci aux confrères, merci aux auditeurs.
Je retourne ici au studio pour donner la parole à Jeringoua. Vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APAMédia. Dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion de l'actualité dominante, les deux nouvelles au fait qui ont dominé l'actualité cette semaine.
En tout cas, ce qui a à retenir, c'est que nous devons serrer nos ceintures parce que, aussi longtemps que, comme je l'ai dit au début, le mal est profond. Aussi longtemps que le gouvernement ne se sent pas appelé à rendre des comptes à la population, ce sera toujours un problème. C'était amusant de suivre la reddition des comptes à l'Assemblée nationale. C'était vraiment et je voudrais rajouter quelque chose sur ce que mon collègue Pepito a dit sur les syndicalistes. Et c'est une manière de vivre pour les syndicalistes quand on parle de grève, les négociations et comme cela. C'est comme ça que les syndicats ont annoncé que les cours reprenaient le 15, alors que dans certaines écoles au sud Kivu, au Maniema et tout cela,
ils n'ont pas repris.
La rentrée
n'a pas eu lieu.
Merci Tati.
Oui, je me retourne vers vous, Pepito Sakasaka. Vous êtes présentateur de l'émission télévisée Focus Hydrocarbures. En quelques mots, en conclusion, au fait, que dites-vous concernant les deux nouvelles retenues qu'on a commentées dans cette tribune de presse?
D'abord, pour la grève, c'est au gouvernement de répondre, mais également aux syndicalistes, comme je l'avais dit tantôt, d'être un peu patriote, sérieux, et avoir de valeur, avoir pitié de ceux-là qui souffrent. Et par rapport à cette question de
bloc pétrolier,
nous saluons la mesure du ministre Aimé Molendo Sakombi et nous annonçons la conférence qu'on organise le 26 octobre à Mwanda, conférence scientifique Mwanda prix pétrole, question de parler de la transition énergétique, de l'avenir énergétique de Mwanda, et nous militons pour que la réforme du secteur des hydrocarbures soit effective bientôt.
Merci à vous tous d'avoir été là. Nous disons merci aux collègues qui ont intervenu à partir de Beni, au Nord Kivu. Merci à vous, Géry. Merci à vous, Pepito. C'est par ici que s'achève ce numéro de la tribune de la presse. Tati Mapoukou, c'est moi qui l'a présenté. Kelinkout s'est occupé de la coordination de ces numéros. Martin Seboujangoué l'a supervisé et Debs Vita était à la prise des sons. Prenez soin de vous et excellent week-end.